Mais aujourd'hui, donc, on fait un petit saut du côté de l'économie en accueillant Florian Fizen. Donc, je vais juste dire quelques mots parce que je ne connais pas beaucoup tes travaux de recherche, je pense que tu en parleras mieux que moi. Et puis je vais aussi revenir un peu sur l'idée de, enfin, comment nous est venue l'idée de cette intervention. Tu es maître de conférence en sciences économiques à l'Université Savoie-Mont-Blanc avec des thématiques de recherche qui sont l'économie des ressources minérales et l'économie circulaire, ainsi que la transition énergétique. Voilà. Alors à l'origine de cette conférence, et là je vais faire de la lecture d'articles, parce qu'il y a un entretien qui avait été publié dans Le Monde en janvier dernier, et en fait le premier paragraphe, les premières lignes, elles s'adaptaient parfaitement à mon ignorance du sujet, puisque ça commençait ainsi. Contrairement à ce que l'on entend parfois, il n'a pas fallu attendre le rapport Meadows en 72 pour que les économistes s'interrogent sur le lien entre croissance et ressources naturelles. Dès la naissance de la discipline au XVIIIe siècle, les physiocrates plaçaient la nature au cœur de la production des richesses, ce qui implique d'en respecter les contraintes. Donc là, j'ai dit, tiens, je ne savais pas du tout. Bon? Et j'ai trouvé ça, donc l'article était super intéressant, et donc j'ai contacté Florian, qui, comme à peu près tous nos interlocuteurs, nos conférenciers, conférencières, a répondu immédiatement en disant, bah, bonne idée. D'ailleurs, je fais une conférence sur le campus à la fin du mois, si on peut échanger à cette occasion. Je me suis retrouvé en fait dans une salle de classe, parce que je n'avais pas été prévenu, à assister à la conférence qui était en fait un cours, une petite aparté dans le cursus des étudiants pour faire cette conférence. Et donc on a pas mal échangé sur le sujet. Et donc voilà, très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Je te passe la parole pour 40 minutes à peu près d'intervention et après on aura une session de questions-réponses. Merci.
Bien, ben bonjour à tous. Alors, je suis vraiment ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie d'ailleurs les organisateurs de cette conférence pour leur invitation. Donc, je m'appelle Florent Fizen, je suis enseignant-chercheur en sciences économiques. Alors, ma spécialité de recherche, comme ça a été dit auparavant, c'est plutôt les questions de ressources naturelles et d'énergie, notamment la connexion entre ces deux pans. Donc, par exemple, mon sujet de doctorat, ça a été sur la disponibilité des métaux dans le cadre du développement des énergies renouvelables. Et puis j'ai travaillé sur d'autres sujets, l'énergie et la croissance, la disponibilité de l'uranium non conventionnel pour les réacteurs de quatrième génération. Donc différents sujets assez vastes. La question qui va nous occuper aujourd'hui, ce n'est pas vraiment spécialement ma spécialité de recherche, mais j'étais amené à écrire un court article grand public dessus en 2019, parce qu'en fait j'en avais assez d'entendre un espèce de discours qui laissait entendre que les économistes avaient une seule position sur la question de la compatibilité entre la croissance économique et la disponibilité des ressources naturelles, et puis plus largement de la pollution. On avait un peu l'impression que c'était un bloc monolithique de pensée, et que c'était une position en fait, qui avait émergé à partir du sursaut environnemental des années 70. Et donc j'ai décidé d'écrire cet article pour essayer déjà de donner un peu une vision de longue durée, une vision historique, pour montrer que finalement que ce n'était pas du tout une question consensuelle. Et puis pour montrer aussi, dans les termes actuels, comment ça se passe, et pour montrer qu'il y a toujours, en fait, ces débats-là suscitent toujours la polémique. Donc c'est ce que je vais essayer de vous représenter dans cette présentation. Alors, c'est toujours la technique. Ouais. Voilà. Ce que je vais essayer de vous montrer, d'une part, c'est que donc ces questions, elles sont présentes dès l'émergence de l'économie comme une discipline autonome, que en fait, il y a de nombreux points qui suscitent la polémique, qu'il y a des scissions qui existent et depuis la naissance de la discipline, et c'est bien avant la publication du rapport Meadows Limits to Grow. Qu'on peut en fait montrer que cette opposition elle est complexe et qu'elle dépasse simplement, disons, l'opposition classique entre optimistes et pessimistes, notamment sur la technologie. Et qu'aujourd'hui, les économistes dits mainstream, alors d'autres diront peut-être orthodoxes, ils sont en passe de gagner contre l'opposition interne, c'est-à-dire les autres chapelles qui peuvent exister sur ces questions-là au sein de l'économie. Mais que paradoxalement, les économistes se sentent de plus en plus isolés sur cette position vis-à-vis des autres disciplines. Et je terminerai en montrant quand même qu'il y a des consensus hein, au sein des économistes sur certains points particuliers. Et que pour clarifier le débat, bah, il faudrait essayer de clarifier quels sont les désaccords et quels sont les accords, potentiellement également les accords sur les désaccords. Donc voilà, je vais distinguer cette partie, enfin cette présentation, je vais la dérouler en quatre parties. Je vais déjà donner une vision de long terme, une vision historique, faire un peu d'histoire de la pensée. Ensuite, je parlerai de l'opposition actuelle, comment en fait ces deux blocs ils peuvent exister, comment on peut le mesurer. Et puis ensuite, je reviendrai rapidement sur les potentiels quand même consensus qui peuvent exister au sein des économistes. Et puis je terminerai par des pistes qu'il faudrait explorer. Alors, je pense que sans revenir nécessairement aux philosophes, certains ont déjà évoqué des questions économiques, on peut remonter déjà jusqu'aux physiocrates. Les physiocrates, c'est des sortes de proto-économistes. C'était souvent des conseillers du prince. Et en particulier, M. Quesnay, qui était donc un Français, a proposé finalement la première vision du système économique en proposant ce qu'on appelle le tableau économique des nations, dont vous avez une représentation ici juste en dessous. Alors ce tableau économique des nations, il a pour objectif de représenter d'où vient la création de valeur et puis comment celle-ci, cette valeur, elle est perfusée au sein de l'économie, comment elle est distribuée. Et en fait, c'est intéressant parce que ça fait de ce tableau économique de la nation, quelque part, un précurseur, un ancêtre de la comptabilité nationale, qui est aujourd'hui l'outil utilisé depuis le milieu du XXe siècle, pour calculer un indicateur phare, qui est le produit intérieur brut, et qui nous permet d'évaluer la croissance économique des nations. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la position de ces physiocrates, elle est aujourd'hui très différente de la position de la plupart des économistes. C'est que ces physiocrates, en fait, ils perçoivent la création de valeur de l'économie principalement à partir d'un secteur qui est en fait la source primaire de toute valeur, qui est le secteur de l'agriculture. Donc pour eux, en fait, la valeur, elle est produite à partir de la nature, à partir de l'agriculture, et ensuite cette valeur, elle va être diffusée au sein de l'économie, notamment grâce à d'autres secteurs que sont l'industrie et le commerce. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que ces proto-économistes, pour eux, les secteurs de l'industrie et du commerce, ce n'est pas des secteurs de création de richesse. Ils sont stériles, ils sont juste là pour diffuser la richesse qui est produite à partir de l'agriculture. Donc on voit déjà le rôle extrêmement important qui est dédié à la nature par ces proto-économistes. Alors un peu plus tard, quelques dizaines d'années plus tard, on a la naissance finalement de la discipline, notamment avec les premiers économistes, même si à l'époque vous les aviez interrogés sur ce que c'est que l'économie, ils n'auraient pas pu vous répondre, parce que par exemple Adam Smith, qui est souvent ce qu'on considère comme le premier économiste, du moins il a commencé à faire vraiment émerger les thématiques phares de l'économie, c'était un philosophe, et d'ailleurs ce qu'il a fait connaître, la richesse des nations, était pour lui une œuvre tout à fait mineure, donc il ne serait pas perçu lui-même comme économiste. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ces premiers économistes dits classiques, parce que finalement les différentes thématiques et leurs premiers résultats sont devenus classiques dans la discipline, eh bien, on peut noter que ces premiers économistes, ils s'interrogent déjà sur la question de la disponibilité des ressources dans le cadre de la croissance économique naissante, puisqu'on est au début de la révolution industrielle au Royaume-Uni, et ils s'interrogent déjà sur la possibilité de pouvoir poursuivre cette croissance économique qui nécessite davantage de ressources naturelles, davantage. Alors, à l'époque, les ressources naturelles, c'est vu sous un prisme relativement étroit. Ils s'intéressent en premier lieu à la question de la production de ressources alimentaires, donc au travers du secteur de l'agriculture. Et puis, plus marginalement, ils parlent aussi des mines, notamment pour la production des métaux, essentiellement l'acier, pour le secteur de l'industrie. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que la question qui les occupe, c'est celle des rendements. Alors, les rendements, ils s'interrogent sur le fait qu'ils soient croissants ou décroissants. Alors, qu'est-ce que c'est que les rendements? C'est l'idée, c'est qu'ils regardent, quand on intensifie la production de l'extraction d'une ressource, alors on peut l'intensifier de différentes manières. On peut augmenter la quantité de travailleurs, par exemple, sur un champ pour essayer d'extraire davantage de ressources agricoles. Ou alors, donc ça, c'est ce qu'on appelle les rendements intensifs, on intensifie la production d'une ressource. Ou on parle de rendements extensifs quand, par exemple, plutôt que d'intensifier l'extraction d'une ressource, on va aller chercher la même ressource, mais un peu plus loin, dans une autre mine, ou alors on va défricher des nouvelles terres, et donc là, on parlera de rendements marginaux extensifs. Et la question qui les occupe, c'est quand on intensifie l'exploitation de la ressource, est-ce qu'on arrive à faire augmenter la production, et est-ce que cette production, elle augmente à un rythme qui est croissant, ou au contraire, à un rythme qui est décroissant? Et ça, c'est très important pour eux, parce que l'idée, c'est si on augmente la production, comment vont évoluer les coûts? Si les coûts évoluent beaucoup plus rapidement que n'augmente la production, ça peut avoir un effet assez catastrophique à long terme sur l'économie et condamner les économistes classiques du côté gauche du slide vont faire naître en fait une vision sur l'économie à l'époque qu'on appelle la dismal science. En gros, c'est la science lugubre. Et pourquoi on l'aperçoit de cette manière-là à l'époque ? Parce que en fait, ces économistes de gauche ont plutôt une vision de rendement décroissant, et ce qui monte à travers d'économie politique, on n'est ici pas du tout dans des approches formelles, il montre que ça condamne plus ou moins la croissance économique à l'état stationnaire, donc à une économie de stagnation, et donc quelque part à un effondrement de la pérennité du système économique, d'où l'hypothèse de prophète de malheur et donc de science lugubre. Alors les plus connus d'entre eux, c'est évidemment Malthus, au travers notamment des politiques malthusiennes de réduction de la population. Mais on a d'autres penseurs qui sont très connus en économie, comme David Ricardo ou John Stuart Mill. Et puis à l'inverse, dès cette émergence de la discipline, on a d'autres auteurs qui sont contemporains des premiers, qui pensent pas du tout la même chose, qui pensent au contraire que les rendements marginaux, qu'ils soient extensifs ou intensifs, sont croissants, et cela du fait de différents facteurs. D'une part, le rôle du progrès technique. On va devenir plus efficace en déployant des nouvelles technologies, ce qui va nous permettre finalement d'abaisser les coûts et l'intensification de certains inputs, de certains intrants, et nous permettre de réduire les coûts tout en extrayant davantage de ressources. Et puis on a la question de l'exploration aussi, c'est l'idée que l'exploration, c'est une activité qui peut nous permettre finalement de découvrir des nouvelles terres qui peuvent être plus fertiles ou des nouvelles mines qui peuvent être potentiellement plus concentrées que celles qu'on exploite jusqu'alors. Et donc il y a une vraie tension finalement entre ces deux camps qui partagent du coup pas du tout les mêmes perspectives sur l'évolution de la croissance économique. Vous voyez que Karl Marx est de ce point de vue-là pourtant un détracteur très important du capitalisme. Du point de vue du progrès technique, c'est quelqu'un qui est, disons, très optimiste sur les capacités du progrès technique pour produire davantage. Alors, peut-être une citation de Jean-Baptiste Say, qui est un économiste français. Alors, c'est des économistes qui raisonnent particulièrement en termes d'offres. Et ce qu'il nous dit, c'est que les ressources naturelles sont inépuisables, parce que sans cela, on ne pourrait pas les extraire de façon gratuite. Elles sont fournies de façon gratuite par la nature. Et ne pouvant ni être multipliées, ni épuisées, elles ne font pas l'objet des sciences économiques, puisque l'économie s'intéresse à l'allocation des ressources rares. Et ce qui est intéressant, c'est que... Donc, il dit ça dans son cours d'économie politique au début du 19e siècle. Et finalement, tendanciellement, c'est cette position qui va prendre le pas dans l'économie classique puis néoclassique qui va se développer au XIXe siècle. Ce que je veux dire ici, c'est qu'à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, on ne va plus du tout s'intéresser aux questions de ressources. On va garder un petit peu l'aspect des ressources via l'input qui est le facteur terre, mais plutôt sur l'aspect foncier, et on va complètement mettre de côté ces questions de ressources naturelles pour se focaliser sur deux autres intrants qui sont le capital, donc la disponibilité des machines, etc., et puis le facteur travail, la disponibilité des travailleurs. Alors, un autre économiste que j'aime bien présenter, qui vous montre qu'on s'intéressait quand même à ces questions d'épuisement, c'est Stanley Jevons. Alors, Stanley Jevons, je trouve que c'est ultra intéressant d'en parler, parce qu'il incarne plusieurs choses à la fois. Alors déjà, il incarne le début d'un nouveau courant, qui est le courant néoclassique, qui, en fait, poursuit l'œuvre des économistes classiques. Il introduit aussi un certain formalisme. C'est l'un des premiers économistes à utiliser les statistiques pour étudier les problématiques d'économie. Donc il a une approche assez rigoureuse, assez formelle. Donc vraiment, voilà, une approche très, très néoclassique, on pourrait dire, aujourd'hui. Mais paradoxalement, en fait, il montre quelque chose qui est très populaire aujourd'hui, qui est la question de l'effet rebond. Donc il va cette fois-ci pas du tout s'intéresser au versant de l'offre, il va regarder sur le versant de la demande. Et ce qu'il nous dit dans une œuvre majeure qui a été publiée en 1865, qui s'appelle The Coal Question, la question du charbon. Donc il s'intéresse à la question du charbon, tout simplement parce qu'avec la révolution industrielle, on a des besoins en énergie qui deviennent croissants. Et comme on bute sur les ressources en bois qui sont disponibles, notamment au Royaume-Uni, on va développer le charbon en grande quantité. Et il s'inquiète en fait de cette consommation croissante de charbon et de la disponibilité du charbon, notamment au Royaume-Uni. Donc il va étudier cette question de l'épuisement des ressources en charbon. Et ce qu'il nous dit, c'est que c'est la confusion la plus totale d'idées, de penser que finalement, une économie de carburant qu'on va réaliser grâce à la technologie, c'est équivalent, ça conduit nécessairement à une diminution de la consommation de ressources naturelles. Alors lui, il a une idée très précise en tête, hein. En fait, il étudie la consommation de charbon du chemin de fer, et notamment des locomotives, et en fait, il voit très bien qu'il y a un problème technique fulgurant au niveau des locomotives, qui, en fait, consomment de moins en moins de charbon pour accomplir un service croissant, un service de transport, donc les locomotives vont plus vite, elles font plus de kilomètres avec la même quantité de charbon, et elles peuvent donc transporter davantage de passagers et de marchandises. Et paradoxalement, alors que en fait, l'intuition pourrait nous laisser penser que ça conduirait à une diminution de la consommation de ressources, avec un prêt technique très fort sur les technologies d'usage, finalement, du transport, en fait, ce qu'il constate empiriquement, avec des statistiques, c'est que dans le même temps, on a une explosion de la demande en charbon du chemin de fer. Et en fait, il va montrer au travers de cette œuvre qu'il va mettre en lumière en fait, le côté obscur de la technologie. C'est l'idée que même si la technologie nous permet d'économiser de la ressource au premier abord pour une technologie donnée, si ça diminue très fortement le coût d'accès à cette technologie, et c'est le cas ici dans le chemin de fer, parce que ça permet de réduire drastiquement les coûts de transport des passagers et des marchandises, eh bien, la demande étant élastique au prix, elle va réagir à cette baisse du coût d'accès au service en augmentant, en intensifiant l'usage du service. Et en fait, cet effet-là peut plus que contrebalancer le gain qu'on a fait en amont grâce aux prêts techniques. Alors ça peut le compenser partiellement ou au contraire, ce qu'on appelle les retours de feu, ça veut complètement brûler les gains, voire excéder les gains qu'on va faire sur les économies d'énergie ici, mais ça peut être aussi porté sur les économies de matières premières dans l'ensemble. Alors un autre économiste qui est aujourd'hui très populaire au sein des économistes néoclassiques, mainstream, c'est Harold Oatling et puis Gray, qui sont des économistes du début du XXe siècle, qui vont s'intéresser vraiment pour la première fois à la question de l'épuisement des ressources épuisables, et en particulier les trajectoires optimales de l'économie face à des situations d'épuisement de ressources qu'on ne peut pas renouveler. Et leur originalité, c'est qu'ils vont utiliser pour la première fois des outils mathématiques. Donc on avait parlé de la statistique tout à l'heure. Là, on va utiliser ce qu'on appelle des modèles d'optimisation dynamique. Donc c'est les premiers à faire usage de ça. Et ils montrent en fait, sous un chapelet, un large panel d'hypothèses, que face à une ressource épuisable, eh bien, l'économie va adopter, normalement devra adopter une trajectoire optimale d'épuisement qui consiste à épuiser graduellement en fait, la ressource. Et donc la demande va être très élevée au départ, et puis au fur et à mesure qu'on va se rapprocher finalement de l'épuisement des ressources, de l'épuisement du stock de la ressource épuisable, eh bien le prix va augmenter au rythme du taux d'intérêt, puisqu'en fait la ressource est un actif comme un autre, hein. Et donc on va épuiser graduellement cette ressource, la demande va diminuer progressivement jusqu'à s'éteindre complètement, passer un certain prix de la ressource, et donc une conclusion importante de ces travaux, c'est que si une ressource s'épuise, ça devrait transparaître dans un indicateur économique qui s'appelle le prix de la ressource, sous, évidemment, les hypothèses qui sont tenues dans leur modèle. Et en fait, c'est intéressant de parler de ces travaux-là, parce qu'au début du XXe siècle, quand ils sont publiés, ces travaux, ils passent complètement inaperçus. Ils vont être réutilisés, du moins leur méthodologie va être réutilisée très fortement dans la réponse qui va être adressée par le courant néoclassique au milieu des années 70, face notamment au rapport Meadows, Limits to Grow. Donc je serai amené à en parler juste après. Alors, sans tout de suite évoquer la question du sursaut environnemental des années 70, on peut quand même déjà noter des premières tensions importantes au sein des économistes, et des économistes néoclassiques, hein, avant la crise des chocs pétroliers, c'est-à-dire dans les années 60. On a deux économistes importants, il me semble, c'est Kenneth Boulding et Nicolas Georgescu-Reagan. Alors le premier, ce n'est pas du tout un économiste hétérodoxe, hein, puisque ça a été le président de l'American Economic Association, donc disons la société pensante la plus prestigieuse en économie. Et ce président, en fait, il va publier en 1966 un article qui s'appelle « The Economics of Coming Spaceship Earth », donc l'économie du vaisseau spatial planète Terre, si je pouvais le traduire comme ça. Et ce qu'il va montrer au travers de cet article, c'est que la grosse lacune des modèles économiques néoclassiques de l'époque, c'est qu'il faut qu'ils arrêtent de raisonner comme si on était dans un univers illimité, ce qu'ils appellent une économie de cow-boy, hein, donc c'est l'idée des nouveaux pionniers qui ont l'impression qu'en fait ils sont dans un champ, un univers qui est illimité, et donc finalement que la contrainte c'est essentiellement le facteur travail et le facteur capital, et que les ressources et l'énergie sont ultra abondantes et disponibles de manière illimitée. Et donc il dit qu'il faut complètement changer d'optique et raisonner comme on est dans un système clos. Il faut commencer à raisonner finalement comme une économie de vaisseau spatial qui évidemment a une quantité d'input qui est limitée, hein, parce qu'un vaisseau spatial il emmène une certaine quantité de ressources à bord. Donc on ne peut pas extraire autant de ressources qu'on veut dans le temps de manière illimitée. Et puis surtout, ces ressources deviennent des déchets, et il faut aussi se poser la question du recyclage des déchets, puisque les ressources, ces déchets, peuvent potentiellement devenir des nouvelles ressources, et ça nous permet aussi de gérer la question de la pollution. Donc il introduit pour la première fois finalement la question peut-être de l'économie circulaire, même si évidemment il n'utilise pas ce terme de façon précise, mais en tout cas il met l'accent sur le fait qu'il va falloir réintroduire deux autres facteurs dans les modèles néoclassiques que sont l'énergie et les ressources naturelles. Un peu plus tard, en 1971, c'est-à-dire avant la publication du Club de Rome, on a Nicolas Georgescu-Roegen qui est au départ un mathématicien qui va s'intéresser aux questions de disponibilité des ressources, et notamment il va chercher en fait à réintroduire la physique dans les modèles économiques, et notamment il va réintroduire la physique thermodynamicienne en essayant d'intégrer deux lois qui sont systématiquement violées dans les modèles néoclassiques de l'époque, qui sont l'équilibre des masses et puis la seconde loi de l'entropie. Et ce qu'il montre en fait dans son ouvrage La décroissance, c'est qu'une fois qu'on a réintégré en fait ces lois-là, on peut montrer en fait que l'économie ne peut pas croître ad vitam aeternam, et que non seulement la croissance n'est pas possible de façon ad vitam aeternam, mais surtout même l'état stationnaire n'est pas envisageable, et on ne pourra faire que décroître à moyen ou long terme au niveau de l'économie. Alors il engage finalement un courant, la naissance d'un courant, qui est le courant de la décroissance, mais il y a différentes contestations, il y a différents objecteurs de la croissance. Il y a ceux qui, en fait, qui sont contre la croissance pour la question des fins, c'est-à-dire en gros, on en discutera peut-être plus tard au niveau des questions, mais on n'a pas de certitude que la croissance économique nous permette d'accroître le bien-être des populations, donc à quoi bon croître ad vitam aeternam. Et donc ça, c'est vraiment les objecteurs de croissance du point de vue des fins. Mais lui, c'est plutôt un objecteur de la croissance par les moyens, c'est-à-dire que il n'y a pas vraiment de positionnement sur le fait que la croissance est nécessaire ou non pour la satisfaction de la population. Mais par contre, ce qu'il dit, c'est qu'on n'aura pas les moyens de continuer à croître ad vitam aeternam. Alors, mais vraiment, le schisme peut-être le plus important qui va nous intéresser aujourd'hui et qui fait naître finalement les contestations qui existent toujours aujourd'hui, c'est le tournant des années 70. Alors, il y a deux raisons à cela. Il y a une première raison, c'est la publication du rapport du Club de Rome, donc par l'équipe Meadows, avec son modèle World Free, qui est un modèle d'équation, enfin de dynamique des systèmes. Et ce qu'ils vont montrer, c'est que finalement, en prenant différents scénarios, eh bien, ils montrent que la croissance ne va pas pouvoir se poursuivre indéfiniment, et que, quelles que soient les hypothèses qu'on fait, à part quelques scénarios très précis qui sont très optimistes en termes de technologie, la croissance va finir par s'interrompre, pour différentes raisons, la pollution, la croissance de la population, la disponibilité des ressources, etc. Et qu'elle finit du coup par s'interrompre pour ces différents facteurs. Et puis le deuxième gros tournant, c'est les chocs pétroliers. Puisqu'à l'époque, comme je vous l'ai dit, on ne s'intéressait pas du tout aux ressources et à l'énergie, tout simplement parce qu'un indicateur phare sur lequel les entreprises et les gouvernements avaient les yeux, c'était le prix des ressources. Et jusqu'alors, en fait, les ressources n'étaient pas du tout vues comme un facteur contraignant, tout simplement parce que les prix étaient faibles. Or, avec les chocs pétroliers, tout change, et en particulier la disponibilité du pétrole, en fait, provoque des récessions successives, hein, choc pétrolier de 1974, 1979. Et donc, il y a une inquiétude croissante. À l'époque, ce n'est pas du tout le réchauffement climatique qui nous pose problème pour les hydrocarbures, c'est vraiment cette perception qu'on a qui est de penser peut-être que l'horizon d'épuisement des hydrocarbures n'est peut-être pas si loin. Et donc finalement, ça fait écho à la publication du rapport du Club de Rome. Et très rapidement, les économistes s'organisent pour essayer de proposer leur perception des choses, leur vision des choses. Et c'est pour ça qu'est publié en 1974, c'est-à-dire 2 ans après le rapport Limits-Sugro, il publie un numéro spécial dans une des revues les plus prestigieuses d'économie, qui est dans le top 5, qui s'appelle la Review of Economic Study. Donc en gros, il y a un certain nombre d'économistes illustres de l'époque, hein, qui sont d'ailleurs pas des prix Nobel, enfin du moins ils ont obtenu le prix en la mémoire d'Alfred Nobel, un prix d'économie. Et en fait, c'est ni plus ni moins qu'une contre-attaque en fait, organisée contre les résultats obtenus par le rapport Meadows. Et leur objectif, et c'est annoncé comme ça, c'est de montrer que la raréfaction d'une ressource naturelle, alors ici c'est essentiellement vu sous l'angle de l'énergie, hein, donc l'épuisement du pétrole, ça ne condamne pas, sous un certain nombre d'hypothèses, nécessairement à l'effondrement du système économique. Et si je puis dire, l'intérêt de leurs travaux, c'est de montrer que même si une ressource est essentielle, alors qu'est-ce que c'est qu'une ressource essentielle? Je vous l'ai mis ici. C'est la condition que si on ne consomme pas du tout cette ressource essentielle, on ne peut pas produire. Donc quand R égale 0, c'est-à-dire qu'on ne consomme pas de la ressource essentielle, l'output Y, la création de richesse, si vous voulez, est nul. Donc on ne peut pas se passer totalement de cette ressource. Ils font ça comme hypothèse et à partir de là, en fait, ils vont construire des modèles qui vont montrer qu'on peut malgré tout, si cette ressource est essentielle, si elle est épuisable et si le stock est fini de cette ressource, on peut continuer à croître ad vitam aeternam avec ce type de condition. Donc ça, ça a donné un contre-coup terrible en fait aux conclusions du rapport Meadows. Alors ça a déjà convaincu une grande frange des économistes de l'époque, enfin le plus gros bloc, de se dire finalement c'est pas vraiment si problématique que ça cette hausse des prix. Et surtout, je pense que ce qui leur a donné raison, c'est le contre-choc pétrolier des années 80, où les prix du pétrole sont effondrés. Et donc finalement, on a un petit peu perdu cette perception de penser que les ressources allaient s'épuiser dans un horizon proche. Alors, comment ils ont fait pour essayer de convaincre l'idée qu'on puisse continuer à croître alors même qu'une ressource essentielle s'épuise? Alors, ils l'ont montré par ils ont exploré différentes voies. Et avec différents facteurs, ils sont arrivés à montrer que ils sont capables de montrer que la croissance économique puisse continuer ad vitam aeternam. Alors, je vous en parlais brièvement, de manière relativement superficielle. Il y a 3 voies principales qui ont été mises en avant pour pouvoir démontrer ces résultats. La première, c'est l'idée d'une backstop technology. Donc ça, c'est une solution qui est proposée par Nordhaus, qui est en fait un prix Nobel d'économie, qui a eu le prix Nobel il n'y a pas si longtemps que ça, pour notamment ses travaux sur le réchauffement climatique. Et en fait, ce qui montre dans cet article, c'est que le prix du pétrole, il ne pourra pas monter jusqu'au ciel du fait de son épuisement, tout simplement parce qu'à partir d'un certain prix, on va développer des technologies qui sont ce qu'il appelle des « backstop technologies », c'est-à-dire qu'ils vont mettre un frein d'arrêt total à l'épuisement de la ressource et à l'évolution de sa rareté, tout simplement parce qu'on va substituer cette ressource essentielle par une technologie qui nous permettra d'utiliser d'autres ressources. Alors lui, cette technologie à coût constant, basée sur une ressource quasi limitée, il perçoit essentiellement au travers des réacteurs à fusion nucléaire. Alors on pourra en discuter, mais en réalité, même la fusion nucléaire, elle n'est pas appuyée sur un socle de ressources illimitées. Hein. En fait, elle a besoin d'input de ressources naturelles qui sont quand même limitées. En tout cas, voilà, il dit à un horizon proche, 200, 300, 400 ans, c'est des ressources qui peuvent être perçues comme illimitées. Il voit aussi le solaire hein, comme backstop technologie à l'énergie fossile. Et donc, il dit, finalement, on va progressivement substituer le pétrole. Donc, même si elle s'épuise, on va trouver des solutions. Deuxième piste qui est explorée, c'est celle du projet technique. Alors, un projet technique très particulier. Donc ça nous est proposé par Joseph Stiglitz, hein, qui a un prix Nobel, qui l'a reçu en 2001, pour d'autres travaux, d'ailleurs. Et ce qu'il nous dit, c'est finalement, si la ressource naturelle s'épuise, qu'elle est essentielle, donc on ne peut pas complètement s'en passer, c'est pas grave, on peut continuer à croître, il suffit simplement que le projet technique, alors il suffit, je le mets entre guillemets, il suffit que le projet technique nous permette d'accroître sans cesse la productivité matérielle de la ressource. Autrement dit, la productivité matérielle, c'est la quantité de création de richesse qu'on peut faire avec une quantité constante de ressources naturelles essentielles. Donc si cette productivité, elle croît chaque année, suffisamment vite, et qu'elle n'est pas bornée à la hausse, eh ben, il suffit, on peut diminuer progressivement la consommation de ressources de façon asymptotique, avec une asymptote qui tombe vers zéro mais qui atteint jamais zéro, et en parallèle, grâce aux progrès techniques, augmenter la production d'output, donc de création de richesses. Donc ça, c'est une autre voie qui est explorée. Et la troisième voie, c'est celle qui est proposée par Solow, Dasgupta et Anil, qui sont aussi des prix Nobel, qui nous disent, on va mettre de côté cette histoire du progrès technique, parce que c'est un pari audacieux, on n'est pas certain de pouvoir le faire. Et en fait, on peut montrer, sous pareil un carcan d'hypothèses assez large quand même, qu'il suffirait de pouvoir avoir une autre ressource reproductive ou renouvelable qui nous permette de substituer cette ressource épuisable essentielle. Et donc, ils montrent sous un certain nombre d'hypothèses, notamment de substituabilité entre cette ressource essentielle et ces autres ressources reproductibles ou renouvelables, même si dans l'article, j'ai regardé encore il n'y a pas si longtemps, ils ne précisent pas directement qu'est-ce qu'il y a derrière ces ressources reproductibles comme le capital ou les ressources renouvelables. Eh bien, on peut continuer à faire croître l'output, donc la production de richesses, en substituant et en diminuant progressivement la consommation de ressources essentielles. Donc ça, c'est une première contre-attaque qui est avant tout théorique, c'est-à-dire qu'ils ne font pas du tout de calibrage de leur modèle sur des données empiriques, ce n'est pas du tout la question, ils explorent simplement des voies théoriques avec des modèles d'optimisation. Et puis, il y a une autre contre-attaque qui s'opère, qui est peut-être encore plus populaire, notamment au travers du grand public, c'est celle qui est organisée par Simon, Goller et Weinberg, qui montre qu'en fait, eux, ils vont regarder plutôt les chiffres, donc ils vont chercher des indicateurs d'épuisement des ressources, des indicateurs avant tout économiques, les coûts, les rentes, les prix. Et ils vont regarder comment ça évolue dans le temps depuis le 19e siècle, pour un panel très large de ressources. Et ce qu'ils montrent, c'est qu'en fait, contrairement à ce qu'on pense, si on considère que ces indicateurs sont des bons indicateurs de la rareté de ressources, ben les ressources n'ont pas l'air de s'épuiser, c'est même plutôt l'inverse, elles ont tendance à devenir plus abondantes à la vue de ces indicateurs. Et ça, je pense que c'est ce qui a permis de convaincre une grande partie de la population. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les abondancistes, ceux qui croient en la corne d'abondance, qui sont très populaires aux États-Unis, Simon, c'est vraiment le prophète, hein, c'est celui qui a montré qu'en gros, quel que soit l'épuisement du ressource, on s'en moque parce qu'en fait, on est suffisamment inventif pour pouvoir toujours repousser l'indisponibilité d'une ressource en substituant par une nouvelle technologie, en rendant l'économie plus efficace au vu de cette ressource ou en la substituant. Et Simon est extrêmement populaire, notamment aux États-Unis. Alors, je ne voudrais pas faire penser que ces économistes ils sont complètement ignorants des questions de ressources ou même incompétents. Solow, qui est en fait celui qui a initié en fait ce numéro spécial, il publie ça dans l'éditorial de la revue. Ce qu'il nous dit, si d'un côté, d'un autre côté, donc ça c'est à la fin de son article, c'est l'éditorial, il nous dit d'un autre côté, si la production réelle de richesse par unité de ressources est effectivement limitée et qu'on ne peut pas dépasser un certain niveau de productivité matérielle, c'est-à-dire qu'arriver à un certain niveau, on ne va plus réussir avec une même quantité de ressources essentielles à faire croître la production réelle économique, et qu'on n'est plus très loin de cette limite maximum, si c'est vraiment le cas, alors dans ce cas-là, la catastrophe est inévitable. Mais il dit, d'un autre côté, on peut considérer que ça, c'est un résultat extrême, et que peut-être que la réalité, elle est il y a un large spectre de possibilités entre ce résultat extrême et nos travaux, et du coup, finalement, la question, ce n'est pas tellement de savoir si nos modèles théoriques sont justes, mais plutôt d'essayer de trancher avec les faits, donc c'est la question des travaux futurs, ce n'est pas tellement de faire des nouveaux modèles théoriques, mais d'essayer de trancher la question en faisant des estimations empiriques pour voir quel est notamment le degré de substituabilité entre les ressources naturelles. Alors, cette contre-attaque très violente, elle va mettre, donc à nouveau, c'est l'idée que les économistes ne sont pas un bloc monolithique, elle va un peu déstabiliser beaucoup d'autres économistes qui étaient présents donc, au sein de ce groupe, et elle va les mettre très, très mal à l'aise. Et progressivement, il y a un certain nombre d'économistes qui vont se détacher finalement de ces résultats, de ces modèles. Et ces économistes, ils vont chercher à créer un nouveau courant, et notamment, ils vont essayer d'intégrer des apports interdisciplinaires venant d'autres disciplines. Ils vont se réunir avec d'autres chercheurs d'autres disciplines, et ils vont créer un nouveau courant qui pense l'économie de manière différente, notamment du point de vue de l'environnement et des ressources naturelles. C'est ce qu'on appelle l'économie écologique. Ils vont se réunir, notamment en 1982, et ils vont fonder une société savante qui s'appelle l'International Society for Ecological Economics. Et cette société savante, elle va publier à la fin de cette décennie un journal qui existe toujours aujourd'hui, qui est Ecological Economics. Alors, vous voyez, vous avez les fondateurs ici de cette société savante. Vous remarquerez que dans ces fondateurs, l'essentiel ne sont pas des économistes. Alors, on en a deux qui sont importants. C'est Herman Daly, qui est en fait le doctorant de Nicolas Georgescu-Reagan, dont je vous avais parlé tout à l'heure, qui lui milite pour l'État stationnaire. Et puis vous avez Richard Benorgar, qui est un autre économiste, disons, hétérodoxe. Et puis, pour tous les autres, c'est des gens qui viennent d'autres disciplines. Charles Hall, connu pour les travaux sur l'Energy Return on Investment, le taux de rendement énergétique, qui est un biologiste. Des gens de géographie, des gens d'écologie des systèmes, ODUM. Des gens d'ingénierie des sciences, ingénierie mécanique. Des gens des sciences agricoles. Donc voilà, un large panel de scientifiques de différents horizons qui vont créer du coup ce mouvement, ce sous-courant de l'économie qui s'oppose, enfin du moins n'utilise pas du tout les mêmes méthodes, n'a pas les mêmes valeurs et ne parvient pas aux mêmes conclusions que les économistes dits néoclassiques qui s'intéressent aux ressources naturelles et à l'environnement et qui donc s'appellent les économistes de l'environnement et des ressources naturelles. Alors ça c'est l'histoire. Maintenant, qu'en est-il de la position actuelle des économistes? Donc là, j'ai essayé de regarder un peu ce que disait la littérature là-dessus pour pouvoir créer cet article grand public. Donc je suis allé chercher des articles et il y a un certain nombre d'articles qui ont fait des sondages, je trouve très intéressants, donc je vais présenter brièvement les résultats, notamment l'article de Drew and Vandenberg qui a été publié en 2017. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mené un large sondage, ils sont allés interroger des scientifiques, des économistes, hein, mais pas que, des scientifiques dans différentes disciplines. Ils ont regardé en fait le panel de scientifiques qui publiaient dans le top 5 de chaque discipline, dans les revues de chaque discipline. Et ils ont relevé les noms, et ils ont envoyé leur sondage, et ils sont arrivés à un panel de 814 scientifiques. Et ils les ont interrogés sur différentes questions, sur la soutenabilité de la croissance économique, sur les questions de disponibilité des ressources, sur les questions d'épuisement des ressources, puis sur les questions d'environnement, notamment de réchauffement climatique. Et alors ils ont introduit plein de variables de contrôle, l'âge, le genre, le niveau de revenu, le positionnement politique, et ils ont essayé de faire du data mining, ils ont essayé de regarder s'il y avait déjà des tendances dans les réponses, si certaines variables expliquaient les positionnements, et puis si on pouvait faire du clustering, c'est-à-dire essayer de regarder si certains groupes pouvaient avoir des positionnements différents et qu'est-ce qu'on pouvait mettre dans ces différents groupes de population. Alors, ils ont réussi à faire émerger, avec des régressions logit et du clustering, ils ont pu montrer en fait qu'il y a deux groupes qui ont tendance à donner les mêmes types de réponses entre eux, mais dont entre chaque groupe, la variance est maximale, c'est-à-dire qu'en gros, ces deux groupes-là, au sein, on a des réponses qui sont relativement consensuelles au sein des groupes, mais par contre, entre les groupes, on a des grandes différences. Et ces deux groupes sont les suivants. On a un premier groupe qui regroupe essentiellement en fait, les économistes de la croissance sans spécialisation environnementale, les autres formes d'économistes, hein, parce que je ne voudrais pas vous faire penser que tous les économistes s'intéressent à la question des ressources naturelles. On a différents, l'économie du travail, l'économie politique, on a plein de champs de recherche. Les économistes de l'environnement et des ressources naturelles, qui sont ces fameux économistes qui utilisent les modèles néoclassiques et les méthodologies néoclassiques pour étudier les problématiques de ressources. Et puis un deuxième groupe qui intègre les économistes écologiques, les spécialistes en sciences sociales de l'environnement et les spécialistes en sciences de l'environnement, mais côté sciences dures. Et alors, voilà ce qu'ils pensent, enfin ce qu'ils montrent en termes de réponses majoritaires dans les groupes. Le groupe 1, qui regroupe l'essentiel des économistes, montre que en fait, ces économistes-là ils ont une préférence pour des niveaux de croissance beaucoup plus élevés. Donc ils attachent beaucoup plus d'importance à la croissance économique, et quand on leur demande de choisir un taux de croissance optimal de l'économie, ils ont tendance à donner des chiffres beaucoup plus importants. Alors que dans le groupe 2, les réponses majoritaires, enfin la plupart des répondants, optent pour l'état stationnaire, donc une économie de stagnation, la décroissance, donc une diminution de l'output, voire de la croissance. La croissance, c'est l'idée, c'est que la question, ce n'est pas tellement de se positionner par rapport à la croissance ou la décroissance, mais d'arrêter d'utiliser le PIB comme un indicateur phare et d'avoir d'autres dimensions pour pouvoir mesurer notamment la satisfaction des populations. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que quand vous interrogez le groupe 1 sur la possibilité d'une croissance de combien de temps ça va encore durer, la plupart des individus du groupe 1 pensent que la croissance ne se terminera jamais. Les raisons qui sont évoquées sont de ce type: la connaissance est sans limite, le progrès technique n'a pas de limite, toutes les ressources épuisables peuvent être remplacées par des ressources renouvelables. Du côté du groupe 2, on n'a évidemment pas du tout les mêmes réponses. La plupart des individus du groupe 2 pensent que la fin de la croissance arrivera dans 25 ou 50 ans. Les raisons évoquées pour voir cet horizon plus proche, c'est des problèmes environnementaux, donc le réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité, etc. Les problèmes de disponibilité des ressources, donc ce qui va alimenter l'économie en amont, la rareté de l'énergie, les ressources naturelles dans l'ensemble, et puis les problèmes d'inégalité croissante. Alors ce qu'ils notent également, ces auteurs de ce sondage, c'est que le positionnement politique influence très fortement la position aussi des individus. Donc c'est une variable significative qui va nous permettre de prédire aussi très fortement les positions des individus sur ces différentes dimensions. Alors je suis allé aussi chercher d'autres résultats. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'on ne peut pas le voir finalement dans les réseaux de citations ? J'ai fait pas mal de méta-analyses dans mes travaux de recherche. Voilà, j'avais déjà déployé ces outils-là, donc je me suis dit, tiens, on va aller regarder de ce côté-là. Donc ici, vous avez en fait une représentation des différentes revues. Alors je crois qu'il y a 29 000 journaux scientifiques à partir de la base de données Scopus. Et ça montre différentes choses. Vous avez les revues d'un grand nombre de disciplines. Ça montre deux. Alors comment sont représentées ces revues ? Bah, déjà, la taille de la bulle, ça vous donne le degré de l'importance, enfin, du prestige de la revue, son niveau de citation, son degré de qualité. Il y a différents indicateurs. Alors, je ne sais pas si on arrive à voir, on ne voit pas bien, ce n'est pas assez gros, mais voilà, il y a Nature ici, Science, il est juste à côté, donc les revues les plus importantes, notamment en termes d'impact factor. Et puis, donc ça, c'est sur l'importance, puis ça montre aussi l'intensité des liaisons entre les revues. Donc en gros, vous avez des distances entre ces différentes bulles, et plus les publications dans ces revues ont tendance à citer des travaux d'autres revues, entre deux revues notamment, plus le nombre de co-citations est important, plus les revues vont être rapprochées sur ce graphique. Donc ça donne en quelque sorte une mesure de l'intensité des co-citations entre chaque journal. Donc on va s'intéresser à la question de la... Alors vous avez évidemment les différents champs disciplinaires. Donc en bas, en bleu, vous avez les revues de physique, les revues de médecine qui sont... biologie, je crois, c'est en... ça doit être en rose. Médecine, c'est en orange. Les sciences humaines, c'est en bleu. Et en vert, vous avez la gestion et l'économie. Donc on va s'intéresser à ce sous-ensemble pour essayer de regarder si on peut voir si les journaux sont différents en économie. Est-ce qu'on peut passer à la slide ? Voilà, donc on va s'intéresser à ce sous-ensemble vert pour voir si on peut trouver déjà des résultats là-dessus. Alors, je suis allé chercher du coup les différentes revues dont je vous ai parlé. Donc tout de suite sur votre gauche, vous avez des revues qui ne sont pas des revues d'économie que j'ai citées, donc Nature Climate Change, Nature Sustainability, Journal of Cleaner Production. Ils sont plutôt des revues en sciences de l'environnement. Tout de suite, complètement à votre droite, vous avez les revues du top 5, donc ça, les revues les plus prestigieuses. Si vous voulez faire une super carrière, partir à Harvard, il faut publier dans ces revues-là, c'est un passage obligé. Et vous avez cette fameuse Review of Economic Study, tout de suite à droite, qui est en fait la fameuse revue qui a organisé la contre-attaque contre le rapport Meadows. Et on voit que ces revues, elles sont très très éloignées de ces revues de sciences de l'environnement, et même de manière générale de l'interdisciplinarité, parce qu'elles ne sont pas du tout proches du centre finalement du réseau de citations qui se rapproche. Par exemple, Nature and Science sont des revues interdisciplinaires, sont beaucoup plus proches, si c'était un univers, ils sont vraiment au centre de cet univers, alors qu'elles, elles sont vraiment en périphérie finalement de l'économie, mais même de manière générale de l'ensemble des disciplines. Et alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que vous avez ici trois revues qui s'intéressent aux ressources naturelles et l'environnement, le GIR, le GIM et Ecological Economics. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'Ecological Economics, on le voit, est beaucoup plus à gauche que ne le sont ces revues d'économistes de l'environnement et des ressources naturelles qui utilisent des méthodes standards d'économie pour étudier les questions d'épuisement des ressources. Alors une autre façon de le voir, c'est de regarder comment finalement d'un point de vue du discours, ces différentes revues d'économistes au sein des questions de ressources naturelles, elles ont tendance à converger ou à diverger. Alors ça, c'est un travail qui a été fait par Plumcock en 2014, qui a regardé l'évolution du discours, notamment dans les résumés d'articles. Donc il a épluché tous les articles qui étaient publiés depuis une trentaine d'années par ces différentes revues. Il a fait du data mining, de l'analyse textuelle, et il a essayé de regarder s'il y avait... Donc il a représenté finalement les usages en termes de discours, ce qui transparaissait en termes de méthodologie, de résultats et de valeurs. Il a représenté cette variance sur deux axes qui représentaient l'essentiel finalement de cette diversité du discours, des données, enfin des résultats et des méthodes. Et il a regardé en fait comment chaque revue évoluait dans le temps. Et ce qu'il a montré, c'est qu'il y a une convergence entre le discours des revues classiques, néoclassiques en sciences les économistes de l'environnement et des ressources naturelles, et le discours d'Ecological Economics, qui était au départ une revue qui était plutôt interdisciplinaire par nature. Alors, on va faire un zoom. Voilà. Mais ce qu'il a montré, c'est que cette convergence du discours, elle n'est pas tellement obtenue par une espèce de moyenne entre le discours des économistes néoclassiques et le discours d'Ecological Economics. Elle est plutôt obtenue par une dérive du discours d'Ecological Economics vers ces revues standards des économistes de l'environnement et des ressources naturelles. Alors, je vous le montre ici, on ne voit pas très bien. Ça, c'est le discours d'Ecological Economics représenté, du coup, sur un grand nombre de facteurs, en 1989, à la création de la revue. Et puis ça, c'est le discours des autres types de revues en environnement et en ressources naturelles. Et on voit que progressivement, en fait, le discours d'Ecological Economics converge et se rapproche, finalement, des résultats et du discours des autres revues en économie de l'environnement et des ressources naturelles. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Comment on peut expliquer finalement ce résultat ? Alors là, je suis aussi allé chercher un petit peu des potentielles pistes d'explication. Pourquoi alors même qu'on a vu tout à l'heure que finalement la position des économistes néoclassiques, elle semble quand même elle est relativement isolée vis-à-vis des autres disciplines, hein, puisqu'on voit que finalement ils font un peu bloc contre les pensées, enfin du moins les positions des autres sciences, qui sont en sciences sociales ou en sciences dures de l'environnement. Pourquoi alors même qu'ils semblent plus isolés, ils arrivent à convertir une frange toujours plus importante d'économistes au sein de la discipline ? Il y a différentes pistes pour moi qui sont potentiellement explicatives. Déjà, c'est que l'interdisciplinaire n'y fait pas fureur, hein, et ça a été très bien démontré par un article de Fourcade et Hall, intitulé, alors je pense que c'est un peu ironiquement, « La supériorité des économistes », donc il le met entre guillemets. Il montre qu'en fait, l'économie, elle est très fermée, et le monde sous différentes dimensions. Du point de vue de la bibliométrie, déjà, il montre que, donc ils sont allés regarder, pareil, les revues du top 5 de différentes disciplines, et ils ont regardé comment ces articles-là, ils avaient tendance à citer des travaux de leur discipline ou des travaux d'autres disciplines. Et ce qu'ils ont montré, c'est qu'en fait, l'économie fait partie des disciplines qui s'autocitent le plus. C'est-à-dire que, grosso modo, quand vous regardez les revues les plus prestigieuses, et bien leurs articles citent essentiellement des revues d'économie, ce qui est beaucoup moins le cas d'autres disciplines comme la sociologie. Une autre explication, c'est quand vous interrogez directement les individus. Et ce qu'ils montrent, c'est que... quand vous interrogez les scientifiques de différentes disciplines, les économistes sont la première discipline, loin devant les autres, quand on leur demande est-ce qu'un savoir interdisciplinaire est meilleur qu'un savoir monodisciplinaire, c'est la seule discipline et la première où la réponse majoritairement donnée est un savoir monodisciplinaire est meilleur qu'un savoir interdisciplinaire. Donc ça, c'est la première piste d'explication. La deuxième piste, c'est le New Environmental Pragmatism. Donc c'est un courant qui devient majoritaire au sein d'Ecological Economics, qui a cette démarche, c'est la fin justifie les moyens. Si les méthodologies néoclassiques, elles sont plus aptes à convaincre le grand public et les décideurs politiques de faire quelque chose pour l'environnement et faire quelque chose pour la disponibilité des ressources naturelles, on utilise du coup les outils néoclassiques. Donc c'est l'idée que si la meilleure façon de convaincre les gens, c'est par exemple de mettre un prix sur la nature et de valoriser d'un point de vue monétaire notamment les services écosystémiques, c'est ce qu'il faut faire. Et si on utilise d'autres types d'indicateurs, des approches notamment biophysiques, etc., qui sont moins parlantes aux gens et donc du coup qui ont moins d'impact, eh bien, tant pis, on abandonne ces indicateurs, même si on sait potentiellement qu'ils peuvent être plus pertinents, notamment dans certaines situations. Et ça explique en grande partie aussi pourquoi, en fait, il y a un intérêt croissant pour ce type de méthodologie. Alors, il y a quand même des consensus au sein des économistes. Je ne voudrais pas vous laisser sur l'idée que, en fait, on est en désaccord sur absolument tout. Un consensus le plus important, c'est l'idée que le PIB n'est pas un indicateur de bien-être. Je pense que vous ne trouverez aucun économiste sérieux qui vous dira que le PIB est un indicateur de bien-être. J'irai même plus loin, le créateur du PIB, qui est Kuznets, qui est un économiste américain des années 30, au moment de la création de l'indicateur, après la grande récession de 1929, il fait ce discours au Congrès, il dit « ce serait en fait une mésinterprétation la plus totale de penser que le produit intérieur brut est un indicateur de bien-être de la population, c'est un indicateur de suivi de l'activité économique, et ça doit être pris comme tel ». D'autres choses importantes, c'est l'idée que le business as usual, c'est-à-dire le scénario tendanciel, l'idée que si on continue à faire comme avant, à maintenir le rythme de l'activité économique, à faire le même type d'activité économique, on ne pourra pas atteindre l'objectif de limitation du réchauffement climatique à plus de 2 degrés. Et ça, quels que soient les différents groupes, notamment dans les sondages, ils ont les mêmes types de réponses sur ces points-là. Et ils reconnaissent aussi qu'il y a un potentiel effet rebond, notamment en énergie, et donc que le progrès technique, notamment du fait de cet effet rebond, n'est pas apte à résoudre la totalité des problématiques. Et ils s'accordent aussi à dire que l'essentiel point de désaccord viendrait du fait que ces problématiques sont chargées d'idéologie, c'est-à-dire qu'en gros, l'autre camp a tort, parce que principalement, il a un discours qui est idéologique, qui n'est pas fondé sur les faits empiriques. Alors, je vais essayer de vous résumer ça, parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, donc on va conclure là-dessus. On a vu que finalement, ces questions de disponibilité des ressources naturelles, elles existent au sein de l'économie depuis la naissance de l'économie, et c'est bien naturel, puisque l'économie est l'étude de la science de l'allocation des ressources rares. Et donc, finalement, c'est naturel à l'époque de s'intéresser à ces questions-là. Et on a vu que dès le départ de l'émergence de l'économie, en fait, les économistes ne sont pas d'accord sur la compatibilité entre plus de croissance et la disponibilité des ressources naturelles. Il y a quand même un désaccord sur quelques constats, je vous l'avais montré, mais après, il persiste quand même, et notamment actuellement, des désaccords sur les méthodes pour détecter les problèmes, pour analyser, détecter les problèmes, et les méthodes pour les corriger. Ils ont des désaccords sur les valeurs, notamment quand on utilise certaines méthodes pour corriger ces problématiques. On a une opposition entre efficacité et équité, hein, qui est vraiment importante, même au sein des économistes d'Ecological Economics. Et on a aussi des désaccords sur ce que transmettent ces méthodes, notamment ces questions de marchandisation, notamment de la nature, et aussi d'utilisation de l'individualisme méthodologique, c'est-à-dire qu'on a des individus qui sont parfaitement rationnels, qui sont ultra-égoïstes et qui suivent que leur intérêt personnel. Et en fait, il y a une crainte que l'utilisation de ces hypothèses dans ces modèles finisse par concourir en fait, à donner l'idée que les individus doivent se comporter de cette manière, en fait, qu'on n'est plus sur quelque chose qui décrit, mais surtout quelque chose de normatif. Et donc, l'approche néoclassique, on a vu, elle a un monisme. Son monisme, c'est de pouvoir tout agréger sous la forme d'une seule dimension, qui est la monnaie. On convertit tout en valeur monétaire et on fait des arbitrages, on fait des choix à partir de ce qui crée de la valeur ou non. Mais on voit que ça reste quand même un obstacle important pour essayer de convaincre les autres disciplines. Et on voit d'ailleurs que l'opposition entre les économistes et les autres disciplines est croissante. Alors mon point de vue, c'est que face à l'incertitude, parce qu'en fait, il y a plein de champs où l'incertitude persiste, hein, sur les résultats de nos modèles, sur la capacité à pouvoir résoudre ces problématiques, et du fait aussi que la plupart de ces solutions comportent des questions d'irréversibilité, notamment vis-à-vis de la biosphère, il me semble quand même important, même si c'est plus coûteux, hein, c'est moins facile à évaluer, ça va être moins facile à gérer, il me semble vraiment important de maintenir du pluralisme au sein de la discipline, un pluralisme d'approche, un pluralisme de méthode. Ça gagnerait à être maintenu, parce que je pense que la part des problématiques, et j'en veux pour cause les champs que j'ai étudiés, soit les problèmes sont très complexes, et en fait une seule méthode et même un seul champ d'analyse ne permet pas finalement de de comprendre tous les angles morts et tous les angles potentiels de problèmes qui peuvent se poser. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que c'est vraiment important d'essayer de maintenir coûte que coûte le pluralisme au sein de l'économie. Et voilà, et je terminerai peut-être par une petite image humoristique. L'idée qu'il y a une vraie idéologie, hein, et qu'il y a des querelles idéologiques, hein, qu'on a du mal à trancher avec les faits, je trouve que l'illustration peut-être la plus flagrante, c'est ce que je vous ai présenté ici, c'est l'idée que voilà, il y a certains chercheurs, penseurs, qui étaient vraiment très très opposés. Donc ici, vous avez deux illustrations les plus extrêmes. Vous avez Paul Ehrlich, qui est un biologiste, hein, l'auteur de The Population Bombs en 1960, qui en fait militait un peu pour des politiques néo-malthusiennes, hein, qui pensait que la croissance n'est pas du tout compatible, on ne peut pas continuer à croître, ça c'est clair que non. Et puis Simon, qui est vraiment, comme je vous l'ai dit, la position la plus extrême, c'est vraiment ceux qui croient en la corne d'abondance. Et en fait, vu qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur qui avait raison, ils ont fini par faire un pari. Et ils ont fait le pari, pour trancher finalement qui avait raison, ils ont fait un pari sur l'évolution du prix d'un panel de matières premières. Donc ils ont commencé en 1980, et ils ont dit, voilà, si ce prix du panel de matières premières, il continue d'augmenter d'ici la fin des années 90, eh bien, ça montrera que finalement, c'est plutôt les pessimistes qui ont raison, et au contraire, si les prix s'effondrent, ce sera plutôt les abondancistes qui potentiellement auront raison. Et ils ont fait des vrais paris, hein. Et en fait, il se trouve qu'à la fin des années 90, il y a ce fameux contre-choc pétrolier, un effondrement du prix des matières premières, on évacue complètement ces questions de la littérature scientifique, et finalement, du coup, bah, Paul Ehrlich se retrouve à faire un chèque à Simon, parce qu'en fait, il perd son pari. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un numéro spécial d'Ecological Economists qui ont essayé de revisiter ce pari. Ils ont fait des exercices de simulation dans tous les sens, et la conclusion des chercheurs sur ce pari, c'est que finalement, Simon était très chanceux, parce qu'en fait, il a eu une période très particulière de l'histoire qui lui a donné raison sur son pari, et globalement, les deux étaient assez incompétents, hein, c'était, c'était les conclusions de l'article, hein, c'est pas mes conclusions, et qu'en gros, ben, finalement, leurs arguments étaient assez invalidés dans les faits, et que la vision est extrême, enfin, la problématique est assez complexe, et souvent, leurs deux visions sont beaucoup trop extrêmes pour essayer de représenter correctement l'évolution de la disponibilité des ressources. Voilà, j'en ai terminé. Je serais très heureux de prendre des questions.
Questions dans la salle ou sur Internet, si jamais...
Bonjour. En économie, moi je ne suis pas très bon, mais je me posais la question de se dire, on sait qu'aujourd'hui, au mois de mars ou début avril, je crois, on a grillé une terre, enfin les ressources de la terre, ça y est, c'est fait. Comment les économistes voient ça?
Alors, moi je suis un spécialiste des ressources épuisables, et alors je vais essayer de vous répondre sur la question, mais je ne suis quand même pas un spécialiste de la question des ressources renouvelables. Je pense que ces indicateurs d'empreinte, ils sont de plus en plus pris en compte, hein, par les économistes. Même si, à nouveau, ces indicateurs d'empreinte environnementale, que ce soit l'empreinte écologique ou même maintenant l'empreinte matière, en fait, ils retranscrivent finalement la quantité d'output que le système biologique peut retranscrire. Mais à nouveau, je pense que les économistes néoclassiques qui pourront toujours vous mettre en avant les mêmes facteurs, c'est l'idée, c'est que une ressource renouvelable, finalement, en tant que telle, on ne consomme pas directement des ressources renouvelables, on consomme des services qui utilisent ces ressources. Et donc la véritable question, ce n'est pas tellement de savoir est-ce qu'on consomme, enfin, on a besoin de ressources naturelles, mais est-ce qu'on est capable de découpler les services qui sont nécessaires et qui sont consommés au travers de valeurs dans nos systèmes économiques, est-ce qu'on peut les découpler de la consommation de ressources renouvelables? Alors sur la question, parce que moi-même j'ai des travaux sur cette question, la littérature empirique, économétrique sur la question, elle montre que les indicateurs d'empreinte, on n'a pas su montrer de découplage entre la progression de l'activité économique et celle des empreintes. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à casser suffisamment fort la liaison entre, d'une part, la progression qu'on voudrait à la baisse des indicateurs d'empreinte et puis la progression du produit intérieur brut. Donc, pour moi, la littérature économétrique, elle montre pour l'instant que c'est très difficile de casser la liaison. On n'a pas ce qu'on appelle, les économistes et les organisations internationales, de découplage absolu, c'est-à-dire la capacité à faire monter le PIB tout en faisant descendre les empreintes. Donc, je pense qu'ils reconnaissent quand même ces limites, mais je pense que certains pourront, ce n'est pas mon cas, mais pourront vous mettre en avant qu'on a à nouveau ces possibilités d'essayer d'augmenter la productivité matérielle. Parce qu'on pourra aussi vous avancer que l'idée que si le système économique, pour l'instant, continue à consommer toujours plus de ressources, c'est quelque part c'est qu'il n'y a pas les indicateurs de rareté qui montrent que les ressources s'épuisent. Autrement dit, on n'a pas d'augmentation significative des prix qui montre que, en fait, les ressources doivent être plus économes, enfin, les secteurs doivent être plus économes en ces ressources pour éviter de l'épuiser. Ça, je pense que c'est une réponse qu'on pourra vous avancer. À nouveau, je pense que moi, si on prend une vision holiste, et non pas une ressource, parce qu'évidemment, si on prend un angle très serré, on pourra, je pense, toujours imaginer par secteur une substitution d'une ressource par une autre. Mais pour moi, on ne fait que déplacer la pression, en fait, d'une ressource vers une autre. Et même si on regarde la vision plus globale, on voit que tous les indicateurs de consommation de ressources, ils sont à la hausse, que ce soit les ressources épuisables ou les ressources renouvelables. Et que du coup, pour l'instant, pour moi, on n'a pas de preuves empiriques qui permettent de montrer qu'on est capable de continuer à croître en diminuant la consommation de ressources. Donc aujourd'hui, on a deux questions qui se posent. On a celle de la question des ressources épuisables. Est-ce qu'on va réussir à diminuer la consommation de ressources épuisables ad vitam aeternam et de façon asymptotique à zéro, puisqu'on a un stock fini de ressources, c'est un système clos. Et puis on a la question des ressources renouvelables, qui est de dire on a un flux qui est généré chaque année, il ne faut pas déplacer ce flux, vous l'avez dit, on est déjà bien au-delà, donc on grignote finalement le stock qui nous permet de générer ce flux, donc ça, ce n'est pas soutenable. Mais en fait, quand vous regardez même les ordres de grandeur, moi j'ai regardé un petit peu au niveau de l'empreinte matière, de toute façon, et c'était la solution de Daly, hein, l'économiste écologique dont je vous ai parlé, qui disait finalement la solution à long terme, c'est de substituer l'épuisable par du renouvelable. Mais le problème, c'est que ça, c'est inenvisageable vu les ordres de grandeur aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'empreinte matière, c'est-à-dire la quantité de ressources qu'on consomme, à plus de, je crois, il me semble, c'est 75 ou 80%, c'est de la ressource épuisable. Donc l'ordre de grandeur n'est déjà pas du tout dans le bon sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on consomme des quantités beaucoup, beaucoup plus importantes de ressources épuisables que de ressources renouvelables. Et c'est, en fait, c'est c'est même le chemin de l'histoire, hein, parce que la dernière transition énergétique, qui est la transition vers des énergies, les hydrocarbures, la révolution industrielle, on a cherché à se détacher de ces ressources renouvelables parce que ces flux n'étaient pas suffisants pour pouvoir alimenter la croissance économique et la révolution industrielle. Donc aujourd'hui, dire demain, et je ne parle pas que des énergies, hein, je parle même d'un point de vue de matière, demain, la solution, c'est de repasser sur des renouvelables, ouais, le problème, c'est que les ordres de grandeur ne sont pas du tout dans le bon sens, quoi.
Alors, je ne suis pas sûr à 100% d'avoir compris ce que tu viens de dire, mais je vais essayer de le reformuler pour soit mieux le comprendre, soit voir s'il n'y a pas autre chose derrière. Mais si je comprends bien ce que tu dis, c'est que dans tous les systèmes économiques qu'on a observés jusqu'ici, l'augmentation du PIB s'accompagne systématiquement d'une augmentation de la consommation de ressources. Donc est-ce qu'il n'y a pas, quelque part, une escroquerie intellectuelle à dire on peut imaginer quelque chose où on pourrait avoir une croissance ad vitam avec une consommation qui tend vers zéro, alors qu'on n'est même pas capable d'observer une dérivée négative. Je ne parle pas de tendre vers zéro, je parle d'une dérivée négative. Ouais. Est-ce que ça, ce n'est pas une objection majeure, en fait, au courant néoclassique ?
Alors, à nouveau, je vais essayer de retranscrire ce que je pense de manière suffisamment claire, mais la question, elle est complexe. Alors déjà, il n'y a pas de découplage absolu. C'est-à-dire qu'on n'a pas une déconnexion entre des courbes du PIB qui montent et des courbes d'empreintes qui descendent de matière, ou même d'empreintes de consommation énergétique qui descendent comme ça. Mais par contre, ce qu'on observe, c'est ce qu'on appelle du découplage relatif. C'est-à-dire que, grosso modo, les courbes du PIB montent plus vite que les courbes de consommation d'empreintes et de consommation d'énergie. Donc, quelque part, on vous dira qu'on a des premiers signes. Alors, pas suffisant, mais des premiers signes de productivité matérielle, c'est-à-dire qu'en gros, la quantité de matières premières pour produire unité de richesse, elle descend. Elle descend, mais pas suffisamment vite pour compenser l'effet d'augmentation du gâteau. Donc, mais je suis d'accord avec vous. De mon point de vue, de toute façon, on n'en observe pas parce qu'on ne pourra pas en observer sur le long terme. Alors, les économistes écologiques résument ça sous une phrase assez simple, c'est la fable du bigger cake with fewer ingredients. Et en gros, cette fable, c'est l'idée de faire un gâteau toujours plus gros en diminuant les quantités d'ingrédients qu'on met dedans. On voit bien que, moi, je peux l'imaginer à court terme, on peut imaginer des gains d'efficacité matérielle et énergétique. Ça, il ne faut pas le nier, il y a des possibilités. Hein. On peut devenir plus efficace. Moi, je pense par l'usage des voitures, on peut se mettre en covoiturage. Donc, on aura besoin de moins de matières premières pour réaliser le même service de transport, moins d'énergie. Mais une fois qu'on aura utilisé au maximum ses capacités de covoiturage, qu'on aura mobilisé au maximum les gains d'efficacité énergétique, on va buter potentiellement sur des minimums énergétiques et des minimums matériels. Donc je pense que non seulement on a un problème déjà de vitesse, c'est-à-dire pour l'instant, on fait diminuer la quantité de matière et d'énergie par unité d'output, mais pas suffisamment vite pour compenser l'augmentation de l'output. Mais en plus, moi, pour moi, et c'est là que je pense que les physiciens doivent intervenir, on a des questions de minimum de long terme qui se posent. C'est-à-dire, en gros, pour moi, ces intensités matérielles, qui sont les quantités de matière qu'il nous faut pour réaliser unité de richesse marchande, elles ne peuvent pas descendre asymptotiquement à zéro. À long terme, on va buter sur des minimums qui sont peut-être très loin de ce qu'on est actuellement, mais des minimums qui sont strictement positifs. Et donc, dès le moment où on va atteindre ces minimums-là, on ne pourra plus continuer à découpler, on va avoir un recouplage totalement complet avec le système, avec la progression de l'output économique. Donc ça, c'était la première question. Et alors, ce qui me semble important de dire, c'est que par contre, et ça, je sais, et c'est pour ça que je pense que les économistes, ça conforte un petit peu peut-être la position de certains économistes néoclassiques, c'est que du côté de l'empreinte carbone, donc la question plutôt de l'exutoire, des questions de la pollution, on a du découplage. Et on commence à observer du découplage absolu. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des mesures qui montrent que dans certains cas de figure, c'est pas généralisé, etc., mais on peut avoir une forme d'économie de croissance tout en ayant une diminution des émissions de gaz à effet de serre. Et mais là, je pense qu'il y a vraiment une distinction à opérer, c'est que je pense qu'il y a quand même une possibilité de naviguer vers un système décarboné, parce que je pense qu'il y a beaucoup de technologies qu'on peut faire totalement sans carbone, même si c'est une question de coût, de vitesse pour naviguer peut-être pas suffisamment rapidement vers un système sans carbone. Mais je pense que du point de vue de la ressource, des ressources naturelles et de l'énergie, les questions ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que, autant, moi, je peux concevoir un découplage carbone-croissance à long terme, même absolu, autant, je pense que, techniquement, ça va être beaucoup plus difficile d'avoir un découplage complet ressources et énergie vis-à-vis du PIB. Donc, je pense que c'est deux champs qu'il faut distinguer. Et je pense que l'idée de commencer à observer du découplage entre le carbone absolu, entre le carbone et l'économie, ça donne quelque part, ça leur donne, ils ont l'impression que ça leur donne raison. Et je pense qu'ils vous répondront aussi que si aujourd'hui, je le répète, hein, si on n'observe pas de découplage suffisant absolu entre les matières, entre les ressources, l'énergie et le PIB, c'est pas que ça donne raison, ça donne tort à leur modèle. Et que ce n'est pas possible. C'est tout simplement parce que, en fait, ces ressources-là ne sont encore pas suffisamment rares et chères pour que le système économique les économise. Et qu'on préfère aujourd'hui économiser du travail plutôt qu'économiser de l'énergie. Donc, et c'est un peu la question du recyclage qui se pose. Hein. C'est, aujourd'hui, il y a plein de... je sais pas, moi, je donne un cas qui est complètement anecdotique. Hein. Mais quand on organise au sein des laboratoires, quand on organise des repas, parfois, on voit une espèce de plateau où on a des fourchettes, des couteaux, etc. Et on préfère balancer ces matières premières, ne pas les recycler, plutôt que de les remettre dans le système. Alors que la logique, le bon sens, dirait qu'il faudrait les réintroduire dans le système. Mais pourquoi on ne le fait pas ? Parce que d'un point de vue économique, ça va coûter plus cher d'avoir une main-d'œuvre, du travail, du facteur travail, qui est occupé à récupérer cette matière, à la recycler, à la remettre dans le système, plutôt que de vouloir économiser un petit peu de ressources. Et donc, tant qu'en fait, les ressources ne sont pas suffisamment chères, je pense que tant qu'on dira le système et les entreprises, elles fonctionnent de cette manière. Hein, elles ont une comptabilité générale qui compte en euros. Et donc, tant que ce qu'il faudra économiser, c'est de la ressource monétaire pour être vu comme profitable, eh ben, on économisera ce qui sera cher. Donc, en l'occurrence, dans les pays riches, c'est le facteur travail, éventuellement le facteur capital, mais pas les ressources et l'énergie. Donc, je pense que ça, c'est une réponse qu'on pourra potentiellement vous opposer en disant ça, c'est pas une preuve, c'est pas une démonstration que le découplage n'est pas possible, c'est simplement que le système économique n'a pas intégré que les ressources étaient rares. Le carbone, on commence à l'intégrer, donc bah, voilà, c'est pour ça qu'on commence à avoir des résultats qui sont plus probants sur le carbone que sur les ressources naturelles.
Juste, excuse-moi, je sur le carbone, il ne semble pas qu'il y ait une diminution de l'empreinte carbone. Et il faut regarder ça à échelle mondiale.
Alors, sur, au niveau agrégé, vous avez raison. On le voit, hein, les rapports du GIEC le montrent très bien. C'est-à-dire que les émissions de carbone, elles sont croissantes, hein, notamment en équivalent carbone. Mais vous pouvez trouver des exemples de pays, alors sous des périodes particulières. Oui, non, bien sûr, mais après, on pourra vous dire, moi, je ne suis pas un apôtre, hein, vous l'avez compris, je ne suis pas du tout dans ce sens-là, mais j'essaye de vous retranscrire les différentes positions. Nous, on a des données de panel, donc en fait, les modèles, ils regardent un petit peu les différentes possibilités. Et ce que je pense qu'on pourra vous dire, c'est que le fait de constater que les émissions agrégées ne diminuent pas, ça peut être vu à des effets de structure. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, on constate que certains pays observent déjà une baisse de l'empreinte carbone, et encore plus des émissions territoriales, où là, vu qu'une grande partie des émissions importées ne sont pas prises en compte, du moins sont imputées à ceux qui produisent et pas ceux qui consomment, on a des états qui sont encore plus favorables. Mais ce qu'ils vous diront probablement, c'est si la consommation agrégée, enfin les émissions agrégées ne diminuent pas, c'est un effet de structure, c'est que les pays qui sont déjà avancés, qui diminuent, pèsent peu dans le PIB mondial, donc en fait ils pèsent très peu lourd dans la baisse des émissions de carbone, alors que les pays qui sont encore en croissance, qui sont dans des phases de développement, qui nécessitent beaucoup d'émissions de carbone, pèsent très lourd dans le PIB mondial, je pense à la Chine, ça emporte le reste, ça emporte la moyenne. Et donc du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des études et ils montrent que sur certains types d'économies avancées, on peut avoir des baisses sur certaines périodes, voire de manière générale. Donc c'est toute la littérature sur les courbes de Kuznets environnementales, qui sont ces courbes en U inversées, c'est-à-dire qu'en gros, ces théories-là, donc il y a plein de littérature qui essaye de le prouver empiriquement, qu'au départ, ben, on fait augmenter la pollution au fur et à mesure qu'on se développe, parce qu'on va transitionner vers des secteurs industriels qui sont très intensifs en carbone et en autres formes de pollution. Puis arrive un moment donné, on va basculer vers d'autres formes, notamment d'économies de services, et que ces économies de services, on pourra vous avancer. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de preuves. À nouveau, je ne suis pas du tout... ce n'est pas ce que je pense, mais en tout cas, on pourra vous dire que ces formes d'économies de services sont moins intensives en matières premières, en énergie, en polluants. Et donc, du coup, aujourd'hui, et ça, c'est vrai qu'il faut le constater, aujourd'hui, l'essentiel du PIB des économies avancées, c'est des économies de services. Et donc, l'argument qu'on pourra vous avancer, c'est que si l'économie mondiale finit par transitionner vers cette économie de services, ben, on devrait observer une baisse des émissions de carbone. Voilà, donc moi, vous avez compris que je ne fais que retranscrire la diversité des positions.
On avait une question internet qui était, Mathilde, le PIB n'est pas un indicateur de bonheur, mais existe-t-il un indicateur économique qu'on peut relier au bonheur ?
Ouais, vaste question, mais question extrêmement intéressante. Alors, on va ouvrir un nouveau champ. Alors, les économistes, l'économie du bonheur, maintenant, c'est un champ à part entière de l'économie. Hein. Moi, je ne suis pas du tout un économiste du bonheur, c'est-à-dire je me suis intéressé, mais plus par culture générale que vraiment par spécialité de recherche, même si je commence à essayer de regarder justement si mes indicateurs à moi, l'empreinte matière, l'empreinte énergétique, etc., peuvent avoir des corrélations, voire des causes avec ces indicateurs de bonheur. Mais en tout cas, il y a une littérature empirique là-dessus. Alors déjà, je vais répondre peut-être en façon séquentielle. Première question, est-ce qu'il y a des indicateurs économiques qui sont corrélés au bonheur ou à la satisfaction de la population ? Alors, les économistes, depuis longtemps, ils cherchent à savoir justement, malgré les mises en garde du créateur du PIB, si le PIB, quand même, il n'y a pas, même si ce n'est pas un indicateur de bien-être et que ça n'est pas construit de sorte à refléter le bien-être de la population, est-ce qu'il n'y a pas quand même une corrélation, voire un effet causal entre les deux ? Alors, une grosse littérature qui a essayé de montrer ça, et ça a mis en avant ce qu'on appelle le paradoxe d'Easterlin. Je ne sais pas si vous connaissez, ça vous parle ou pas. Donc, Easterlin, c'est un économiste qui a fait des mesures de satisfaction des individus, donc des mesures subjectives. Donc, il allait interroger les gens en disant, sur une échelle de 0 à 10, comment vous évaluez votre satisfaction ? Et il l'a fait dans le temps, il a suivi une population, donc c'était des Américains, entre 1900, la fin de la Deuxième Guerre mondiale et les années 70. Et il est arrivé à un paradoxe, c'est-à-dire qu'il a observé plusieurs choses. Il a observé que, dans le temps, les gens devenaient plus riches, du fait de cette fameuse croissance économique. En moyenne, les gens ils avaient accès à plus de services, plus de richesses marchandes. Et que, malgré tout, on observait que ces gens-là, quand on les observait dans le temps, ils ne devenaient pas plus heureux. D'où le paradoxe. Et le deuxième paradoxe, c'est qu'il y avait un autre fait empirique, c'est que si vous observez une seule population, à un instant T, vous observez que les plus riches sont quand même plus heureux, se déclarent plus heureux que les plus pauvres. Mais quand vous regardez cette population dans le temps, les plus riches ou les plus pauvres ou la moyenne de la population, il se passe ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que le fait d'augmenter la richesse des individus ne les rend pas plus heureux. Alors, ce paradoxe, il a été résolu en avançant deux pistes. Et je trouve que c'est très intéressant parce que ça montre un peu comment les individus réfléchissent et fonctionnent. Et on parlera peut-être des pistes ensuite pour essayer de naviguer vers quelque chose de plus soutenable. Il a expliqué de différentes manières. La première piste d'explication, c'est ce qu'on appelle le tapis roulant hédonique. Ce tapis roulant hédonique, il nous dit que finalement, il y a un effet d'adaptation. C'est-à-dire que l'homme, quand vous lui donnez plus, il est content dans un premier temps. Et puis, arrivé au bout d'un temps en fait, assez court, il va s'adapter à ce nouveau mode de vie. Et il va considérer que la baseline, la nouvelle ligne de référence, c'est ce nouveau mode de vie. Et donc son niveau de satisfaction, suite à l'augmentation de sa richesse marchande, il va augmenter. Alors richesse marchande, c'est un bien gros mot, on peut dire le revenu, parce qu'il y a des études micro qui l'ont fait au niveau des individus. Vous donnez une augmentation de salaire à un individu, il est content, il est plus content. Donc son niveau de satisfaction, il augmente pendant 2-3 mois, 4 mois. Puis après, il redescend à son niveau initial. Et puis il faut une nouvelle augmentation de salaire pour refaire progresser sa satisfaction. Donc ça, c'est la première spécification, c'est ce tapis roulant hédonique, c'est-à-dire qu'il faut pédaler toujours plus, faire toujours plus de croissance pour maintenir une satisfaction et même pour augmenter la satisfaction. Donc on voit que la croissance économique, de ce point de vue-là, c'est un peu vain, c'est-à-dire qu'en fait, on fait du surplace, on donne plus, mais les gens, ils ne sont pas plus heureux. Et puis la deuxième explication, c'est l'effet de comparaison. Et ça permet du coup d'expliquer pourquoi quand même, à un instant T, les plus riches sont plus heureux que les plus pauvres. En tout cas, se déclare plus heureux. Et c'est l'effet de comparaison. C'est l'idée, c'est que les ouvriers de 1940, aux États-Unis, entre 1940 et 1970, ils ont eu accès à plein de nouveaux biens. Ils n'avaient pas de voiture en 1940, ils en ont eu en 1970. Et la voiture, il n'y avait que le cadre qui pouvait y accéder dans les années 40. Donc on devrait se dire, il doit être super content. Le problème, c'est que l'individu, enfin souvent l'homme, c'est pas tellement la richesse en soi qui l'intéresse, la richesse absolue, c'est la richesse relative, c'est-à-dire comparée aux autres. Donc l'idée, c'est pas tellement d'avoir plus, c'est d'avoir plus que les autres. Alors je pense à des exemples, mais le meilleur appartement sur Grenoble, tout le monde peut pas y accéder. C'est des biens qui sont accessibles à une partie limitée de la population, ceux qui ont les revenus les plus importants. Donc si votre revenu il devient plus important, c'est une chose, mais si il devient, certes il augmente, mais moins vite que les autres, vous n'avez pas accès à ces biens-là qui restent des biens accessible qu'à une frange minoritaire de la population. Donc cet effet de comparaison, il joue à plein aussi, je pense, et empêche quelque part les individus de se sentir plus heureux malgré le fait qu'ils aient davantage en termes de richesse marchande. Alors il y a quand même une source d'espoir là-dedans, c'est qu'il y a quand même un gros aspect culturel là-dedans, et ça a été montré aussi, et pour le coup les cultures sont très différentes. En France, on a quand même une passion pour l'égalité, et donc cet effet de comparaison, il joue de façon très forte. C'est-à-dire qu'en gros, si l'individu, on se compare beaucoup aux autres, et les formes d'inégalité sont souvent perçues comme quelque chose de négatif. Donc si l'autre individu a plus que moi, même si mon niveau de vie reste le même, ça va baisser ma satisfaction. C'est-à-dire que je vais me sentir quelque part plus pauvre. Relativement, je le suis, mais en absolu, non. Mais je vais quand même me sentir plus pauvre, et du coup, je vais être moins satisfait. Et ils ont montré, en fait, cette littérature psychologique, ils ont montré que dans d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons, où on encourage beaucoup plus les inégalités, c'est plutôt perçu, le fait qu'une partie de la population voit son niveau de richesse augmenter, c'est plutôt perçu comme ce qu'ils appellent l'effet tunnel ou l'effet signal, c'est plutôt perçu comme une bonne nouvelle. Et donc ça augmente dans un premier temps la satisfaction, même si les gens n'ont pas accès à un niveau de vie supérieur. Alors ça s'explique, je vais essayer de vous le retranscrire sous forme d'une analogie. Vous êtes dans une voiture et vous arrivez face à un tunnel et il y a deux voies. Et paf, les deux voies sont à l'arrêt, vous êtes dans un bouchon et vous voyez la voie d'à côté qui se débloque et qui se met à avancer. Alors il y a deux façons de le percevoir, ça. la façon un peu française, dire, j'ai encore pas pris la bonne ligne, quoi. Voilà. Je suis encore pas sur la bonne voie. C'est injuste, les autres avancent, ils sont arrivés en même temps que moi. Et puis, il y a l'autre perception, c'est ça se débloque. C'est donc un signal que potentiellement, ça va se débloquer bientôt pour moi. Et ce qui est intéressant, c'est les pays de l'Est, parce que les pays de l'Est avaient cette vision culturelle de penser qu'au départ, les inégalités sont plutôt une bonne chose. Donc après la chute du mur, ils ont fait des enquêtes et ils se sont montrés que les Européens de l'Est, ils raisonnaient plutôt comme des Anglo-Saxons, c'est-à-dire que le fait qu'une frange minoritaire de la population s'enrichisse, c'était plutôt une bonne chose. Ça allait peut-être ruisseler, c'était plutôt une bonne chose. Et puis, on a, culturellement, ils ont fini par dériver vers les pays européens de l'Ouest, c'est-à-dire que comme les bénéfices n'arrivaient pas, bah ils ont fini par adopter plutôt un effet négatif, c'est-à-dire le fait que, même si j'ai plus en absolu, si d'un autre côté, ma richesse relative aux autres, bah, elle n'augmente pas, bah, ça devient un facteur négatif pour ma satisfaction. Donc ça, c'est le premier point de ma réponse. Le deuxième point, c'est qu'il y a quand même, je ne voudrais pas vous faire croire, il y a quand même des points de corrélation entre plus d'activité économique et... Alors, je ne vais pas parler de satisfaction, je vais parler plutôt de, disons, d'indicateurs de, je ne sais pas comment je pourrais dire, d'équilibre du système. Voilà. Alors, je vais vous dire les trois points qui font qu'aujourd'hui, et notamment les décideurs politiques, ils vous disent tout le temps, voilà, décroissance, c'est le modèle Amish, je n'y souscris pas, voilà. Pourquoi c'est caricaturé ? Bah, c'est qu'il y a quand même des contraintes énormes à faire décroître un système économique. Même si on sait que, quelque part, plus de croissance n'entraîne pas de bien-être. Déjà, le premier point, c'est que certes, on n'a pas montré qu'il y a une corrélation et même un effet causal très fort, voire inexistant, entre plus de croissance et plus de satisfaction. Par contre, ce qu'on a montré, c'est que les effets récessifs, type crise de 2009, choc pétrolier, etc., entraînent une baisse très nette de la satisfaction des individus. Alors, il y a des pistes de réponse. Hein, c'est l'effet du travail. Ça entraîne du chômage, donc le chômage... Voilà, les gens qui sont dans l'inactivité, on a montré d'un point de vue micro que ça entraîne une très, très forte baisse de leur satisfaction. Donc comment faire pour, en diminuant finalement l'output, maintenir finalement du travail, hein, de l'emploi ? Ça, c'est une première piste. Hein, parce qu'on sait même aujourd'hui que l'équilibre du système, il est nécessaire pour continuer à créer de l'emploi. Dès le moment où en fait, la croissance n'est pas suffisamment rapide, bah, le projet technique détruit de l'emploi. Et donc de cette manière, bah, si le gâteau ne grossit pas suffisamment vite, bah, le contenu en emploi baissant du fait du problème technique, bah, quelque part, vous détruisez l'emploi, donc vous créez du chômage. Donc comment faire ? Alors il y a des pistes, mais pour l'instant, c'est très peu évoqué. En fait, on s'interdit de le faire. Alors, il y a un observatoire de la décroissance qui vient d'être créé, donc bon, ça commence à émerger, mais c'est encore très peu exploré. Il y a la question de la dette, parce que la dette, donc, c'est une certaine quantité de monnaie qu'on a empruntée. On a un service de la dette, qui a un taux d'intérêt, un pourcentage de ce volume de dette, donc c'est les intérêts qu'on paye chaque année. Donc ces intérêts, c'est contractuel, hein, il faut les payer chaque année. Qu'est-ce qu'on fait si le système décroît ? Parce que ça veut dire que quelque part, si je me reprends une analogie d'un point de vue individuel, ça veut dire que vous avez une annuité à rembourser tous les mois, la décroissance, c'est-à-dire la baisse du revenu. Donc comment on fait pour pouvoir continuer à payer cette annuité en ayant un revenu qui diminue ? Ça veut dire quelque part que le poids de la dette, il s'alourdit en situation de décroissance. Donc ça, c'est une autre question qu'il faut se poser. Puis ensuite, il y a l'équilibre des systèmes des retraites. Et une grande partie d'autres systèmes sociaux qui sont appuyés sur la croissance. C'est-à-dire que les retraites, ça marche tant que le gâteau y croit, parce que quelque part, les prélèvements que fait l'État pour payer une partie de la population inactive du point de vue marchand, ça marche parce que le gâteau croit. Dès le moment où le gâteau y rétrécit, bah, ça veut dire faire accepter en fait, une baisse du niveau de services sociaux associés finalement à l'ensemble de la population. Donc la question de la désirabilité... Alors, la question de la soutenabilité de la croissance, elle se pose, mais la question de la désirabilité de la décroissance, je pense, elle se pose aussi. Et, bon, moi, je ne suis pas des spécialistes de la question, mais je pense que c'est des champs qu'il faut explorer. Parce que, voilà, je pense que, de ce point de vue-là, on a quand même des larges avenues de recherche pour pouvoir essayer de répondre à ces questions.
Oui, j'avais une question sur le paysage des chapelles françaises. Donc, si j'ai bien compris, pour tes collègues, toi, tu as un avis assez positionné, déjà.
Un petit peu.
C'est quoi les têtes de gondole en France, les différentes chapelles, et comment le recrutement au CNRS et dans les universités alimente ces différentes chapelles ?
Bah ça, c'est une vaste question. Bon, je vais essayer de pas trop faire de politique. Alors, les têtes de gondole, je vous les donnerai pas, parce que je vais pas me froisser avec des gens. Ce qui est certain, c'est que vous avez en fait c'est pas un bloc monolithique, mais quand même, vous avez quand même une majorité d'économistes, qui sont les économistes néoclassiques, qui sont des économistes libéraux, qui ont quand même un poids très important dans les recrutements. Et puis face à ça, je voudrais pas vous faire imaginer que vous avez donc une chapelle néoclassique, et puis face à ça, un autre bloc hétérodoxe, qu'on pourra dire, qui est consensuel. C'est absolument pas le cas. Face à ça, vous avez un archipel de chapelles, dont l'économie écologique, et honnêtement, les hétérodoxes ne se caractérisent pas que leur opposition sur les questions d'économie écologique. Il y a des gens qui s'y opposent pour des raisons, vous avez les néo-marxistes, vous avez des gens qui s'y opposent pour des questions que l'économie n'incorpore pas les institutions correctement, vous avez une myriade en fait de chapelles hétérodoxes. Et alors sur les recrutements, alors jusqu'à il n'y a pas si longtemps, il y avait une spécificité de l'économie, c'est qu'on avait un classement CNRS. Alors, moi, je ne le savais pas du tout, mais il semble que c'était un peu une originalité de la discipline. C'est-à-dire que vous aviez une section CNRS qui chargeait de faire un classement des revues en économie pour essayer de guider les chercheurs sur, quelque part, les supports qui étaient susceptibles, finalement, d'apporter de la visibilité à leurs travaux et puis qui étaient de bon niveau. D'accord ? Mais il n'y avait pas de logique prescriptive là-dessus. Et puis très rapidement, ce classement CNRS, au vu de ceux qui l'ont créé, a été complètement dévoyé. C'est-à-dire qu'on l'a utilisé déjà pour classer les labos d'éco. Donc un labo, il avait tant de classifications de rang 1, tant de pourcentages de revues de rang 2, etc. Et plus, plus il y avait de publications et plus il y avait de publications gradées, plus c'était un bon labo. Et donc il fallait allouer des moyens à ce labo. Ça, c'est la première chose. Et puis, très rapidement, hein, moi, je l'ai subi aussi, hein, on évalue aussi les chercheurs quand même, même si ce n'est pas le discours officiel, on évalue quand même aussi les chercheurs à la vue de ce classement. Donc, en gros, un chercheur qui fait peu de publications et surtout que des petites publications de rang 4, il sera moins bien vu qu'un chercheur qui fait des publications dans des rangs 1, etc. Et j'en parlais tout à l'heure, mais ce qui est intéressant, c'est de parler d'Ecological Economics. Alors, Ecological Economics... il est classé rang 1, donc c'est une revue prestigieuse du point de vue de ce classement CNRS. Mais moi, au moment où j'étais doctorant, et j'avais publié là-dedans, donc ça m'inquiétait un peu, il y a eu beaucoup, beaucoup de pression, notamment de la part des économistes standards, pour déclasser cette revue. C'est-à-dire qu'en gros, ils disaient, c'est pas une revue sérieuse, ils n'utilisent pas nos méthodologies, leurs résultats ne sont pas crédibles, il faudrait déclasser cette revue. Et il y a eu des grosses pressions pour déclasser Ecological, ce qu'ils n'ont pas fait au final. Peut-être parce que aussi Ecological, on l'a vu, a dérivé en termes de discours. Et on observe de plus en plus des travaux néoclassiques publiés dans Ecological. Alors aujourd'hui, le débat, il n'est plus le même parce que, en fait, ça a été simple. La section 37 CNRS, là, qui fait le classement d'éco, ils ont dit on arrête de faire ce classement-là parce que, en fait, ça a été complètement dévoyé. Donc, on arrête de publier. Mais il n'empêche que, évidemment, que selon où vous publiez, dans ces revues plutôt néoclassiques ou plutôt dans des revues hétérodoxes, vous n'avez pas du tout les mêmes chances de recrutement. Après, j'aimerais quand même nuancer à nouveau ce point-là, parce que moi-même, j'en suis le produit. Moi, j'utilise plutôt des méthodologies, je pense, relativement standards. C'est-à-dire, je fais de l'économétrie, je suis un empiriste, etc. Mais par contre, j'ai des visions et j'ai des approches qui sont plutôt pas du tout standards, donc plutôt hétérodoxes. Je me suis intéressé notamment au taux de rendement énergétique, un indicateur que les économistes, pour eux, ça ne veut rien dire du tout, c'est complètement incompréhensible. Et donc, quand j'ai publié dans Ecological, je peux vous assurer que les économistes n'étaient pas du tout convaincus de ce que je faisais. Et donc, quelque part, j'aurais dû avoir beaucoup moins de chances d'être recruté. Et j'en veux pour preuve, j'ai eu un grand nombre d'auditions sur plusieurs années, j'ai fait campagne, etc. J'ai eu une audition dans un labo complètement hétérodoxe, interdisciplinaire, qui, justement, était intéressé par un économiste qui s'intéressait à l'énergie et les ressources naturelles et à l'intégration, justement, de ces questions interdisciplinaires. Il n'y avait pas d'économiste qui était sur mon champ de recherche, donc je me suis dit, ça va passer. Et ils n'ont pas du tout recruté un économiste comme moi, ils ont recruté un économiste complètement standard, alors que c'est un laboratoire hétérodoxe. Parce que, en fait, dans le jury, il y avait qui ? Il y avait des interdisciplinaires, mais qui n'étaient pas majoritaires parce que, quand même, ils recrutaient un économiste, qui ont voté principalement pour moi, et puis des économistes hétérodoxes, pourtant, pas du tout néoclassiques, qui se sont dit, pour faire des cours, il vaut mieux un vrai économiste néoclassique, ça sera plus simple, Donc, lui, il nous fait trop de l'interdisciplinaire, ça ne nous inspire pas confiance. Et finalement, j'ai été recruté par un laboratoire, qui est le mien actuellement, qui est un laboratoire, je vous dis, totalement néoclassique, quoi. Donc, voilà, je ne voudrais pas laisser penser que les néoclassiques complètes sont complètement fermés à l'interdisciplinarité et aux travaux originaux, et faire penser que les hétérodoxes, c'est une seule chapelle, et en gros, qui fait bloc contre les néoclassiques. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est plus difficile, je pense, d'être recruté avec des approches pluridisciplinaires, interdisciplinaires, que de faire des choses très standards qui répondent au canon de la discipline. Quoi.